Histoire et gastronomie, la chronique de Jean Vitaud sur Canal Académie.
Bonjour, aujourd'hui nous parlerons de la guerre du cassoulet. Le cassoulet est un plat emblématique de la cuisine régionale française. Quoi de plus typique de la cuisine française des terroirs que le cassoulet? Et cependant, que d'incertitudes sur son origine, sur sa composition idéale, sur ses variétés qui ont conduit au début du XXe siècle à des querelles picrocolines. Qu'est-ce que le cassoulet? Le cassoulet est une estouffade de viande et de haricots blancs. Étymologiquement, cassoulet est issu du récipient en terre cuit au four, la cassole, diminutif du provençal casseau, qui a aussi donné le français casserole. La cassole est traditionnellement faite à Issels, près de Castelnaudary. Par extension, le plat a désigné le mets que l'on cuit dans la cassole, d'où le nom de cassoulet. La composition du cassoulet obéit à des règles précises. Les haricots blancs, traditionnellement des lingots de pamier, de casère ou de lavalané, qui poussaient entre les rangs de maïs, un peu comme dans l'Amérique précolombienne, lieu d'origine de ces deux plantes. On peut aussi utiliser des mojettes ou des cocos, suivant la recette de Paul Bocuse, mais c'est un peu hérétique pour les puristes. On fait macérer les haricots dans de l'eau, autrefois de l'eau de pluie, pendant plusieurs heures. On peut y rajouter de la tomate et des carottes. Il faut aussi de la couenne de porc, dont on enduit la cassole et qui donne le goût aux haricots. On ajoute sel, poivre et aromates, puis l'on ajoute les viandes. Il en faut au moins 30% selon les termes de la loi. On légifère surtout en France, mais cette législation s'applique surtout aux conserves. La qualité des viandes est le germe de la guerre du cassoulet. Elle varie selon les lieux. À Castelnaudary, le porc domine avec la longe de porc, le jarret, le jambon, le saucisson et les couennes de lard fraîche et souvent du confidois. À Carcassonne, il n'y a pas de longe de porc, mais on ajoute du mouton, épaule ou gigot raccourci, et en saison de chasse, une perdrix. À Toulouse, on met peu de porc, pas de longe, mais du lard de poitrine, de la poitrine de mouton, de la saucisse de Toulouse et du confit de canard. La cuisson au feu dans la casserole doit être prolongée pendant plusieurs heures ou jours, de telle façon que les haricots deviennent fondants. On doit perforer la croûte de cuisson recouverte de chapelure en début de cuisson, au moins 6 fois, mais 7 à Castelnaudary et 8 à Toulouse. Anatole France nous parle du cassoulet de la mère Clémence, qui tenait un bouchon rue Vavin à Paris et qui cuisait dans le même récipient son cassoulet depuis 20 ans, où elle remet dans le poêlon tantôt de l'oie, tantôt du lard, tantôt un saucisson ou des haricots, mais c'est le même cassoulet. Le cassoulet de Clémence cuit depuis 20 ans. Le fond reste. Et ce fond antique et précieux lui donne la saveur que, dans des tableaux des vieux maîtres vénitiens, on trouve dans les chairs ombrées des femmes. Comme de nombreux plats régionaux, le cassoulet doit beaucoup à la mondialisation. Que serait le cassoulet sans le haricot et le maïs qui sert à engraisser oie et canard gras et qui sont tous deux d'origine américaine, produits de base de la nourriture amérindienne? L'adage de Castelnaudary, qui voudrait que l'on cuisine dans les mêmes cassoles le cassoulet depuis l'Empire romain, est donc tout à fait erroné. Le haricot est arrivé en France, depuis l'Italie, dans les fourgons de Catherine de Médicis. Le pape Clément VII en avait encouragé la culture. Il est peut-être aussi venu comme le maïs de l'Espagne voisine. La question s'est longtemps posée de savoir si les haricots étaient du Nouveau Monde ou non. Certains, s'appuyant sur le très vieux terme « haricots de mouton », le pensaient et ont même, comme le grand cuisinier Auguste Escoffier, rajouté des haricots à son haricot de mouton à la fin du XIXe siècle pour satisfaire à une étymologie fictive et erronée. En fait, haricot de mouton vient du vieux français harigoter, cité par Chrétien de Troyes dès 1175, qui signifie déchirer, couper en menus morceaux. C'était un terme de guerre. Jean-Henri Fabre, le grand naturaliste de l'Armas, sa retraite près de Carpentras, démontra que le haricot était du Nouveau Monde, car les charançons de l'Ancien Monde ne les mangeaient pas, jusqu'à ce que ceux du Nouveau Monde envahissent aussi au XXe siècle nos contrées. La confusion est d'autant plus grande que l'on parle de fèves de haricots au début du XVIIe siècle. Certains ont pensé que les fèves ou les févroles, sortes de pois, avaient précédé le haricot dans la confection du cassoulet, ce qu'aucun texte ne sous-entend. Certains cuisiniers modernes ont essayé de recréer un cassoulet archéologique en remplaçant les haricots par des fèves, mais le résultat est peu convaincant car les fèves n'ont pas le moelleux des haricots. J'y ai goûté et je n'ai pas été convaincu. Le Nouveau Monde a vraiment réalisé avec l'Ancien une fusion incomparable qui a donné le cassoulet. La guerre du cassoulet. Au début du XXe siècle, Edmond Richardin, journaliste et publiciste de renom, a déclenché une vraie guerre picrocoline pour savoir quel était le vrai cassoulet. Celui de Castelnaudary, celui de Carcassonne ou celui de Toulouse. Antoine de Restac chanta le cassoulet de Castelnaudary. Emmanuel Tivelier lui répondit vertement en louant le plat des dieux, le cassoulet de Carcassonne. Le Périgord s'en mêla et défendit le cassoulet à la Périgourdine. Fulbert Dumonteil, périgourdin et chroniqueur gastronomique de talent, rajoutait au cassoulet classique des cubes de truffes. Kurnonski estimait que ce parfumage était de pure fantaisie. De toute la France vinrent des lettres enflammées, défendant le cassoulet de Montauban, ou celui de Bergerac, défendu par le célèbre acteur Mounet Sully, qui organisa des concours de cassoulet à Paris pour désigner le meilleur, ou encore celui de Villeneuve-de-Lauragais. Il faut dire que le cassoulet est un plat domestique, plus fait à la maison qu'un plat de restaurant, et que chaque cuisinière bourgeoise ou paysanne a sa recette. La polémique enfla et fut finalement résolue par Prosper Montagnier. Si on reconnaît aujourd'hui que la patrie du cassoulet est sans doute Castelnaudary depuis le XVIIe siècle, ce qu'avait subodoré Kurnonski, qui avait fait l'aller-retour et attendu 8 heures le temps de sa préparation pour déguster un merveilleux cassoulet à Castelnaudary. Prosper Montagnier trouva l'aphorisme qui résolut la guerre du cassoulet. Né à Carcassonne en 1865, mort en 1942, auteur du premier Larousse gastronomique avec le docteur Gottschalk, qui nous dit « Dieu le Père est le cassoulet de Castelnaudary, Dieu le Fils celui de Carcassonne et le Saint-Esprit celui de Toulouse ». Sa formule élégante reste unanimement appréciée pour son humour, mais certains languedociens lui reprochent encore d'avoir trahi son pays natal, Carcassonne. Le cassoulet rentre enfin à l'Élysée. Le président Falière, élu depuis peu, invita à l'Élysée une dizaine de journalistes, dont Antoine de Restac et Châtillon du Plessis. Il les avait déjà reçus dans sa maison de Loupillon dans le Lot-et-Garonne et leur avait fait un cassoulet dont Antoine de Restac avait pu dire « Le cassoulet de Monsieur Falière, je vous l'affirme, vont son pesant de haricots d'or ». Les convives l'avaient alors assuré de sa victoire quasi certaine à l'élection présidentielle. Et le président Falière avait promis « Si vous dites vrai et que c'est moi qui vais à l'Élysée, eh bien, foi de Falière, je vous en fais un autre de cassoulet et dans le mois qui suit. » Il tint parole et le cuisinier de l'Élysée, aidé de Madame Falière, le réussit parfaitement. Le président dit alors à son chef « Votre cassoulet était splendide, je n'aurais pas fait mieux. « Tant que les Falières habiteront à l'Élysée, vous en ferez une fois par semaine. » Ce qui fut fait et consacra définitivement le cassoulet comme un des plats emblématiques de la cuisine française. Enfin, le cassoulet a aussi eu ses martyrs, et on dit que Gambetta en serait mort pour en avoir abusé et repris 3 fois alors qu'il était convalescent de la blessure que lui avait infligée sa maîtresse d'un coup de revolver. Le cassoulet eut même sa querelle de séparation de l'Église et de l'État, ou plutôt de l'Église et du cassoulet. Un vrai combat de carnaval contre carême en pleine seconde moitié du XXe siècle. En 1972, plusieurs associations gastronomiques, comme le raconte Christian Guy dans son almanach historique de la gastronomie française, se retrouvent pour assister à une messe célébrée à leur intention dans l'église Saint-Michel à Castelnaudary, au lieu s'il en est du cassoulet. L'archiprêtre avait non seulement toléré, mais accepté de bénir cette manifestation. On raconte que deux curés faméliques et quelques dames patronesses s'élevèrent contre ceux qui font carnaval pendant les offices et ont le ventre plein. En plein milieu du XXe siècle, le combat de carnaval contre carême dure encore, ce qui prouve que le cassoulet ne laisse toujours pas indifférent. Bon appétit.